ce matin. La première dans le livre du prophète Jérémie. Au chapitre... Mettons premier. Jérémie, chapitre 1. Ce livre rapporte ce qu'a dit et fait Jérémie, fils de Hilkia. Jérémie était d'une famille de prêtres vivant à Anatote, sur le territoire de la tribu de Benjamin. Le Seigneur lui confia ces messages dès la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda. Il lui parla encore à l'époque où Joachim, un fils de Josias, était roi de Juda, et jusqu'à la fin du règne de Sédécias, un autre fils de Josias, c'est-à-dire jusqu'à la 11e année de ce règne, au 5e mois, lorsque la population de Jérusalem fut déportée. Le Seigneur m'adressa ce message. « Toi, Jérémie, prépare-toi, debout. Va leur transmettre tout ce que je t'ordonnerai de leur dire. Ne te laisse pas intimider par eux, sinon je te rendrai timide devant eux. Dès aujourd'hui, je te rends résistant comme une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze, face à toute la population du pays, face au roi de Juda, aux ministres, aux prêtres, aux citoyens du royaume. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. » Voilà pour cette première lecture. La seconde lecture du jour pour l'Évangile se trouve dans Luc, au chapitre 4, à partir du verset 20. Je lirai à partir du verset 20, c'est marqué sur vos feuilles, je ne sais pas ce que j'ai fait, sur les feuilles. C'est Luc chapitre 4, hein, si vous voulez le retrouver chez vous. Je lirai à partir du verset 20 pour que ce soit plus explicite pour vous, c'est la suite en fait de ce qui s'est passé dimanche dernier. C'est donc Jésus qui est invité à prêcher à la synagogue de Nazareth, et voilà ce qui se passe. Donc il lit le texte. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture s'est réalisé aujourd'hui, au moment même où vous l'avez entendu lire. » Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur déclara « Vous allez certainement me citer ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même ». Vous me direz aussi « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Accomplis donc les mêmes choses ici, dans ta propre ville. » Puis il ajouta « Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. Je vous l'affirme, il est certain qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas pendant 3 ans. » et qu'une grande famine s'étendit sur tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman, le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces mots. Ils se levèrent, l'entraînèrent hors de la ville et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Notre Dieu, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous avons là donc la suite de nos lectures du jour, et donc la suite de cette prédication de Jésus à Nazareth, dans son village natal, et avec cette fois les effets de la prédication sur les gens qui l'ont écouté. Et cette semaine, quand je commençais à écrire, Je me suis lancé là-dedans, je trouvais ça tout à fait passionnant, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce que j'étais en train d'écrire, ça me paraissait très familier. Alors j'ai vérifié et j'ai finalement fini par trouver que j'ai déjà prêché là-dessus cet été. Pas sur ce texte-là, mais sur son parallèle dans Marc. Et du coup, donc, voilà, j'ai dû tout changer, j'ai tout recommencé. Et nous allons donc explorer une autre piste ce matin, une piste un peu différente pour nourrir notre réflexion et voilà, inspirer notre méditation. Et alors, je vous invite à vous laisser tout à nouveau surprendre par un texte déjà vu, déjà connu, déjà entendu, déjà commenté. Et c'est toujours surprenant, donc laissons-nous faire. Déjà, parce que dans ce récit, ce qu'on pourrait trouver curieux, c'est cette phrase « Jésus ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques handicapés. » Ce n'était pas le mot « handicapé », il guérit quelques malades. Le texte dit qu'à Nazareth, Jésus manquait d'efficacité. C'est là la première surprise, le premier étonnement, la première chose qui retient peut-être notre attention, et qu'il ne fit là aucun miracle, ou presque, et qu'il était en fait très déçu de son action, là, de ce qui s'est passé à Nazareth. Mais qu'est-ce que le texte entend donc par miracle, du coup, si guérir plusieurs personnes handicapées est compté pour rien ? Visiblement, ce texte de l'Évangile semble considérer que ce n'est pas vraiment un miracle remarquable que des malades soient guéris. C'est dans l'ordre des choses, finalement, Jésus les aide simplement à revenir, à retrouver ou à atteindre ce qu'ils pensaient être leur état normal de santé, et rien de plus. Alors qu'un miracle, c'est quelque chose plutôt qui sort de l'ordinaire, qui est une chose formidablement bien, mais qui n'aurait pas dû normalement être possible. Alors, quel miracle Jésus espérait-il faire et qu'il n'arrive pas à faire ? Pour le savoir, peut-être, regardons de plus près, à la loupe, la phrase qui en parle, en enlevant justement la parenthèse avec les petits coups de main sur la santé, là, apparemment négligeable, et voilà ce que ça donnerait. Jésus ne pouvait faire là aucun miracle, et il s'étonnait de leur manque de foi. Le miracle attendu et que Jésus n'arrive pas à faire, c'est donc d'amener les gens à se déplacer dans leur foi, à avoir une foi plus grande, plus large, peut-être plus belle aussi, plus fournie, plus nourrie, plus renseignée, plus informée. Il semblerait qu'il n'y arrive pas. C'est intéressant en tout cas parce que dans le texte, nous avons juste en amont quelques éléments sur la foi de ces personnes. Le texte dit que cette foule de Nazareth, en regardant Jésus, se demande d'où est-ce que ça lui vient ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? Ils observent, ils admirent la sagesse de Jésus, ils admirent la puissance de ses actes, ils se posent des questions, et tout ça est très bien, enfin, de mon point de vue en tout cas. Et mieux d'ailleurs, ils traduisent cette foi en actes, puisqu'ils demandent à Jésus de prendre la parole, du coup, dans cette synagogue. Et ils lui ont même présenté quelques malades pour que Jésus leur redonne de la force. On ne peut donc pas dire que ces gens n'ont pas une certaine foi en Jésus. Mais pourtant, Jésus se dit stupéfait par leur manque de foi. Et ça le bloque pour leur offrir la chose extraordinaire, le miracle qu'il voulait leur offrir. Le problème de ces gens, selon le texte, c'est que selon eux, cette sagesse incroyable qu'ils reconnaissent en Jésus, son intelligence des Écritures, et sa puissance pour guérir les malades ne peuvent pas venir de lui. Ça ne peut pas venir de lui parce qu'il est charpentier. Ça ne peut pas venir d'un simple homme normal. Il pense que cette sagesse et cette force ne peuvent venir que de plus grand que l'homme. De Dieu. Du diable. Mais en réalité, c'est ça leur problème. Parce que, pour rappel, ces gens dont on parle et qui étaient à la synagogue ce jour-là, ce sont des amis, des copains d'école de Jésus, enfin des voisins peut-être, des connaissances en tout cas. Nazareth, c'était un tout petit village à cette époque-là, tout le monde se connaissait. Donc, ils ont de la foi en Dieu, ils savent que Dieu pourrait se manifester à travers un homme, comme un prophète par exemple, tout plein de sagesse, ou un prêtre dont la parole est puissante et belle peut-être, ou un roi qui est capable de justice, qui est capable de paix dans son pays. Ils savent même que Dieu pourrait envoyer son Messie, son Christ, son oint, apportant le salut de Dieu au monde. Et ils se posent la question de savoir quel rapport entre Jésus et Dieu. Et non seulement je trouve ça normal, mais je trouve ça très bien. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait depuis 2000 ans d'ailleurs, nous-mêmes? Enfin, je veux dire, l'être humain se pose cette question depuis 2000 ans. Alors ce qu'on voit là, c'est que leur manque de foi, ce n'est donc pas une manque de foi en Dieu ou une manque de foi en Jésus. J'ai envie de dire que c'est un manque de foi en l'homme. Ils n'imaginent pas, ils n'acceptent pas qu'un homme normal puisse être doué d'une sagesse et d'une puissance extraordinaire. Ils réduisent l'homme à ce qu'il croit savoir de lui. Et c'est peut-être cette foi-là qui leur manque. Et du coup, Jésus ne peut faire le miracle qu'il veut faire, leur donner d'être plus que la personne ordinaire qu'ils pensent être. Il veut les déplacer, les faire grandir, impossible. Ils acceptent, certes, de cultiver leur intelligence jusqu'à un certain point, ils acceptent volontiers un petit coup de main pour la santé, mais rien de plus, ils ne veulent pas davantage, ils veulent rester tels quels parce que le reste pour eux est totalement inimaginable. Or, c'est ce miracle-là que Jésus vient faire, que ce fils d'artisan, le mendiant, le théologien, quelque part, devienne lui aussi prophète, devienne roi, devienne médecin peut-être, et qu'il en fasse autant en tout cas. Il veut faire en sorte que la servante, comme la femme riche, la femme noble, deviennent l'une comme l'autre, chacune à sa façon, d'une sagesse et d'une puissance de transformation du monde extraordinaire. C'est ça qu'il veut pour les êtres humains, quels qu'ils soient, et qu'ils soient même dans leur ordinaire le plus ordinaire. En passant d'ailleurs, Jésus impose les mains alors peut-être à un boulanger aveugle pour qu'il devienne un boulanger tout court, à un péager pour qu'il devienne un péager malade, pour qu'il devienne un péager en bonne santé, mais il n'appelle pas ça un miracle. Il fait cela juste par compassion, parce que la santé, ça vaut toujours mieux que la maladie, de toute façon, et que notre corps fait entièrement partie de notre personne. Donc il le fait. C'est bien parce que Jésus espère, et ce qu'il espère, c'est bien autre chose que juste ces petits soins comme ça qu'il amène à l'homme blessé ou malade pour le ramener à un état ordinaire. Mais voilà, eux, comme bien des gens, ils ont peur de l'inconnu, peur de ce qui est inexploré pour eux. Tout ce qu'ils espèrent, c'est que leur situation ne soit pas pire le lendemain, et peut-être un peu mieux éventuellement, si c'est possible, mais pas autrement, pas différemment que ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ne veulent pas un changement de vie, surtout pas. Et c'est sans doute pour ça que Jésus, lorsqu'il guérit, je ne sais pas si vous avez remarqué cette phrase bizarre qu'il demande dans les évangiles, souvent il dit... Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il y a un aveugle qui arrive comme ça devant lui. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Comme si ce n'était pas une évidence pour Jésus. Mais c'est parce que tout dépend de la foi de la personne qui vient vers lui. Il vient nous donner en fonction de ce que nous attendons et en fonction de ce que nous demandons. Et peut-être que l'aveugle, c'était tout à fait autre chose qu'il venait chercher auprès de Jésus. C'est chacun, en tout cas, selon sa foi. Mais l'espérance de Dieu, c'est que nous soyons demain l'être prodigieux, talentueux, génial, qu'il voit en nous déjà aujourd'hui, mais que nous ne voyons peut-être pas. On est peut-être assombris par des tas de choses, par des critiques de nos amis, ou par ce qu'attend la société, la culture, de ce qu'on devrait être, etc. Dieu lui voit bien au-delà, et il voit l'être tout à fait génial qu'on peut devenir. Et le miracle que veut faire Jésus, justement, c'est de nous faire prendre conscience de ça, de nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas seulement une personne, avec un corps plus ou moins en bonne santé, un métier, une famille, une vie. Nous sommes cela, bien sûr, mais aussi infiniment plus que cela. Nous pouvons être autour de nous quelqu'un qui fait des miracles pour ceux qui l'entourent. Et la preuve, c'est que Jésus, lorsqu'il envoie les 12 en mission, il leur donne le pouvoir de faire des signes. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et ils ne sont pourtant pas très différents, à mon avis, des habitants de Nazareth. Ils ne sont pas très différents de nous, même qui sont ici à Londres. Et pas meilleurs, pas plus instruits, pas mieux formés, ils auront une puissance quand même extraordinaire pour libérer ceux qu'ils rencontreront. Comment ça marche? Jésus, bien sûr, ne leur donne pas une télécommande comme ça pour avoir accès à la puissance de Dieu au moment où on en a besoin. Non, ça ne marche pas comme ça, bien sûr. La question n'est pas là parce que Dieu, au fond, est déjà complètement impliqué, complètement à fond pour faire tout ce qu'il faut pour que la vie se déploie sur notre terre, comme dans l'univers d'ailleurs. Mais ce que leur donne Jésus, et c'est le miracle qu'il espère faire pour eux et pour nous aussi d'ailleurs, c'est de libérer leur propre pouvoir à eux. Quand ils feront des miracles, quand ils parleront avec sagesse et puissance, du coup ce ne sera pas une sagesse qui leur vient d'ailleurs, ou des miracles que Dieu fera à travers eux, mais ce sera bien leur propre parole à eux, ce sera leurs propres actions, leurs projets, leurs forces qui transformera le monde autour d'eux. Et comment Jésus pourrait-il aider ces personnes qui n'imaginent même pas une seconde qu'un fils de charpentier puisse être autre chose qu'un charpentier? Eh bien, Jésus n'y arrive pas. Ça ne marche pas avec les amis de Nazareth. Alors, à travers le temps et l'espace, il s'adresse à nous, ses amis d'aujourd'hui. Parce que les amis d'autrefois, apparemment, ce n'est pas bien passé. Jésus, de la part de Dieu, veut nous faire voir grand sur nous-mêmes. C'est pas mal. Il nous invite à rêver grand. Et je ne dis pas que tous nos rêves les plus fous vont tous se réaliser si on y croit assez fort. C'est pas vrai. On arrête tout de suite. C'est pas ça du tout. Mais c'est peut-être un peu comme un examen. Si on vise la note de 10 sur 20, on aura tout au plus, allez, entre 8 et 11. Mais jamais 18. Si on veut une bonne note, il faut plutôt viser entre 18 et 20. Et là, on va pousser. Et c'est exactement un peu ce qui se passe ici. Dieu, lui, vise pour nous plutôt, il nous espère plutôt du 1000 sur 20. C'est ça qu'il voit pour nous. Et il sait qu'on en est capable parce qu'il peut nous en rendre capable. Il peut. Son ambition, c'est de nous donner la sagesse et la puissance de création du Christ lui-même, un peu comme s'il nous avait donné le Christ à voir comme prototype de ce qu'on pouvait devenir, comme prototype de l'être humain idéal qu'on était censé devenir. Pas juste regarder, admirer et se dire « waouh, il est formidable !» Devenir. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'avec la philosophie des voisins donc, de Jésus à Nazareth, un fils de charpentier donc ne bougera pas. Et il restera juste bon à raboter quelques planches, voilà, peut-être de manière un peu intelligente et douée avec ses mains, mais ce sera guère plus que ça. Alors que Dieu, justement, en a besoin pour son, il a besoin de son point de vue personnel à ce charpentier pour éclairer les gens autour de lui, pour éclairer le monde. Alors que Dieu espère en lui pour libérer d'autres personnes des esprits impurs qui transforment leur vie en souffrance. Alors si, comme les habitants de Nazareth, le seul miracle que nous attendons de Dieu dans nos vies, c'est un petit coup de main pour la santé. D'abord, ça ne marche pas toujours. Et en plus, il y a beaucoup de chances que nous n'ayons rien compris à ces histoires de miracles. Allons voir un médecin pour soigner notre genou, notre estomac, voilà, si ça ne va pas, mais ayons pour nous-mêmes et pour nos proches cette foi que nous propose Jésus ici, ayons l'ambition que Dieu a pour nous, que chacun de nous soit génial, soit plein d'une sagesse et d'une puissance extraordinaire malgré toutes les négativités qu'on peut entendre, recevoir autour de nous. C'est ça que Jésus veut transmettre à ces gens de Nazareth. Et le but, vous savez, du catéchisme des jeunes, le but du culte, le but des études bibliques, ce n'est pas vraiment ou pas seulement de vous apprendre quelque chose. Ça, ce n'est qu'une partie, qu'un des éléments, qui est parfois utile, bien sûr. Mais le but, c'est d'avoir ensemble et les uns pour les autres cette ambition de Dieu, cette ambition qu'il a pour chacun de nous, et de partager ça entre nous. D'être quelqu'un d'original, de génial, de prodigieux, de bien plus en tout cas que ce que nous sommes aujourd'hui, et nous sommes appelés toujours à un meilleur. Nous sommes tous, bien sûr, en devenir, hein, personne d'entre nous n'est arrivé. J'espère pas en tout cas, parce que c'est une action de tous les jours qui se passe, alors que vous ayez cette audace qui consiste à avoir cette sagesse plus grande que tout ce que vous avez reçu, cette foi démultiplié par rapport à celle que vous avez reçue dans votre enfance, celle qui a été celle qui vous a porté peut-être jusque-là, et d'avoir en tout cas l'espérance, comme Jésus, de transmettre à d'autres cette ouverture à l'extraordinaire. Amen.